François Heilbronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Heilbronn, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris et avec vous ce soir, nous allons revenir sur l'antisémitisme dans les universités françaises. Hier, le quotidien Le Figaro y consacrait sa première page avec plusieurs articles. Paris 8, qui sont les vrais responsables de l'antisémitisme à l'université? La cause islamiste est devenue norme pour cette génération. Les universités minées par un antisémitisme persistant et certains professeurs d'université cautionnent voire alimentent un discours anti-Israël. L'antisémitisme s'est frayé un chemin au sein des universités françaises et infuse dans les esprits des jeunes occidentaux. Voilà ce qu'on pouvait lire parmi les différents articles hier dans Le Figaro. Et tout cela, François Heilbronn, malgré la loi du 31 juillet dernier relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.
Tout à fait, Pierre. Vous avez parfaitement résumé le contenu et la force donnée par Le Figaro à cette enquête, cette très bonne enquête d'une journaliste qui s'appelle Emma Ferrand, qui connaît bien ces sujets d'enseignement supérieur. Et effectivement, c'est la première page du Figaro, c'est le grand titre, « Les universités françaises minées par l'antisémitisme » dans le journal du mardi 28 octobre. L'enquête est très bien faite, passionnante, tout ce qui est raconté est vrai. Elle relate les faits qui se sont produits à l'université de Paris 8 Saint-Denis le 15 octobre, soit donc 2 jours après la remise des otages et 5 jours après le cessez-le-feu à Gaza. C'est une réunion qui s'est tenue à Paris 8 Saint-Denis pour glorifier les massacres du 7 octobre, pour porter son soutien à Georges Ibrahim Abdallah, ce terroriste condamné à 40 ans de prison en France, pour participation à des activités terroristes sur le territoire français. Et on pouvait entendre, dans cette réunion qui s'est tenue donc à l'Université de Paris 8, et qui a été bien décryptée, analysée et dénoncée par Léon, le média, sur les réseaux sociaux, il a été notamment dit « Je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre était la meilleure solution, ce n'est pas choquant, comme événement, ils n'ont fait que se révolter. » Eh bien, cela rentre dans le cadre de l'apologie du terrorisme, et Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, a tout de suite très bien réagi. D'abord, il a convoqué la présidente de l'Université de Paris 8 pour savoir comment une telle réunion d'apologie du terrorisme de propagande antisémite peut se tenir effectivement encore plus après le passage de la très bonne loi sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur du 30 juillet. Il a aussi fait ce qu'on appelle en procédure judiciaire un article 40, c'est-à-dire qu'il a saisi le procureur et le tribunal de Bobigny pour qu'il y ait une enquête pour savoir qui étaient les responsables d'un tel événement, qui étaient les organisateurs et quelles étaient les failles au sein de l'université pour comprendre comment un tel événement pouvait avoir lieu. Mais Paris 8 est coutumier du fait. Cette université, et l'enquête le montre, l'enquête du Figaro le montre très bien, mais c'est pas une révélation, on y reviendra peut-être plus tard aussi dans les livres de Nora Bucini, Les nouveaux antisémites, ce thème est abordé. Les collectifs étudiants, les collectifs palestiniens de Paris 8 sont très véhéments et au-delà de la mobilisation pour une éventuelle cause palestinienne qu'ils revendiquent, c'est surtout un engagement pour le Hamas, pour les mouvements terroristes. Ils ont une proximité avec le FPLP et Samidou. Ils ont une proximité avec les plus violents militants de la cause palestinienne et islamistes, et c'est un discours de haine, d'apologie du terrorisme et de haine des juifs, et comme le rapporte Emma Ferrand dans cette très bonne enquête, les quelques étudiants juifs qui restent encore à Paris 8 Seine-Saint-Denis font attention, ne font pas parler d'eux. Il en est de même pour les enseignants juifs, ils ont peur, ils sont souvent menacés, et c'est un climat de terreur qui règne dans cette université, et ce qui est absolument inacceptable. Donc on peut espérer que la mobilisation du ministre de l'Enseignement supérieur portera ses fruits. Et j'ai remarqué aussi que France Université, c'est que le comité des présidents d'université s'est aussi horrifié que l'apologie du terrorisme et la haine antisémite se diffusent encore dans les universités. Ils ont fait un rappel à l'ordre à tous les présidents d'université. Mais comme l'explique très bien aussi l'article, comme une interview en page 3 du Figaro, il y a un problème dans les universités, c'est que les présidents d'université, lors l'élection, hélas, à cause de la loi Pécresse d'il y a 15 ans, leur réélection et élection dépend des voix étudiantes. Et dans ces universités où les étudiants les plus radicaux verrouille et contrôle la plupart des sièges des représentants étudiants, bah, les présidents d'université qui veulent être élus, bah, ils sont parfois conciliants, aveugles et ferment les yeux devant la radicalité antisémite et d'apologie terroriste qu'il peut y avoir dans ces universités. Donc très bonne enquête, bravo au Figaro de mettre ça en avant et de rappeler aussi des incidents qui sont passés récemment, notamment à Paris 1, où des boucles WhatsApp ont exclu des étudiants de MIF, dans des établissements comme Sciences Po Lille et aussi Sciences Po Lyon. Et Sciences Po Lyon, je voudrais y revenir, notre collègue Yanis Roder, professeur d'histoire, mais aussi responsable des formations des profs au Mémorial de la Shoah, le 14 octobre, lui, donc le lendemain de la libération des otages, devait faire une formation pour des magistrats à Sciences Po Lyon, former des magistrats sur le thématique jugé sous Vichy, et un collectif radical de Sciences Po Lyon a essayé de l'empêcher de s'exprimer, a cassé le matériel audio, a affiché des tracts, a essayé de bloquer la salle, et finalement Yanis Roder, toujours très courageux, a pu s'exprimer et a pu donner son cours à une trentaine de magistrats, les étudiants, essayant de bloquer son cours et sa présentation. C'est un autre incident qui a tendance à se répéter, hélas, en milieu universitaire.
Alors, vous l'évoquiez il y a quelques instants, et on va continuer à parler d'antisémitisme avec la journaliste et essayiste Nora Bussini, d'ailleurs que l'on a reçue à Radio Shalom, et de son dernier ouvrage, « Les nouveaux antisémites », c'est chez Albin Michel, fruit d'une enquête en immersion au cœur des milieux islamistes de l'ultra-gauche. Elle y dévoile un système structuré traversé par un antisionisme radical et qui vire souvent à l'antisémitisme et confesse redouter une bascule politique majeure en France. Et l'élément déclencheur, confie-t-elle, fut le 7 octobre 2023, alors que le Hamas massacrait en Israël. Nora Bussini raconte avoir vu des collectifs féministes et LGBT français célébrer, entre guillemets, une libération.
Tout à fait. J'ai la chance de connaître Nora Bussini et de l'avoir rencontrée justement dans son travail de journaliste il y a plus d'un an et demi quand elle travaillait sur Sciences Po et ce qui se passait à Sciences Po. Nous avons beaucoup échangé, elle m'a appris d'ailleurs beaucoup de choses. J'en ai aussi appris un certain nombre qu'elle évoque d'ailleurs dans le chapitre consacré à Sciences Po dans son livre, où elle reprend certains des propos que j'ai pu tenir publiquement au conseil de direction de Sciences Po pour morifier des discriminations antisémites qui avaient eu lieu en mars 2024 à Sciences Po. Nora Bussini a fait un travail excellent, un travail que de moins en moins de journalistes font, c'est ce que l'on appelle le journalisme d'investigation. Et donc pendant deux ans, elle a masqué son identité, elle a masqué sa personnalité, elle a modifié son nom, et elle a infiltré, c'est vraiment le terme exact, elle a infiltré tous les collectifs les plus radicaux, Students for Justice in Palestine, les comités Palestine. Elle est allée dans les universités brûlots de cette radicalisation, notamment Columbia à New York, mais aussi l'Université libre de Belgique à Bruxelles, et Sciences Po Paris, où elle est venue souvent enquêter et se renseigner, mais elle est allée aussi à l'université dont on vient de parler, Paris 8 Saint-Denis, à Nanterre, à Sciences Po Lille, à Sciences Po Strasbourg, et elle montre, comme elle l'avait fait d'ailleurs dans un précédent ouvrage qui était sur le wokisme et les techniques de radicalisation d'une certaine forme de jeunesse, que c'est les mêmes mécanismes. Ce sont des mécanismes où les réseaux sociaux sont très efficaces, où les boucles WhatsApp et Telegram fonctionnent à plein, que la propagande se passe par TikTok et Instagram, et notamment sur Instagram avec TikTok, avec le site AJ+, AJ+ et AJZIRA+, est un site d'appel à la violence la plus extrême, financé par le Qatar et Al Jazeera. Mais elle a montré aussi les collectifs radicaux dans les universités, et notamment ce qu'elle a pu écrire sur Sciences Po est tout à fait exact. Et par exemple, elle révèle que Students for Justice in Palestine, qui était le collectif qui a radicalisé la jeunesse américaine dès le 8 octobre 2023, le lendemain des massacres, un collectif, le Students for Justice in Palestine, qui est financé par le Hamas, qui a été fondé par un leader du Hamas, eh bien, le 11 octobre 2023 à Sciences Po. Sa section est créée par un étudiant palestinien qui s'appelle Khaled Aboukher, qui est un étudiant palestinien de 28 ans, qui était en échange depuis l'université de Bir Zeit en Cisjordanie et qui avait été clairement envoyé, peut-être en éclaireur, pour monter cette cellule de radicalisation. Et par la suite, Students for Justice in Palestine a été récupéré par le Comité Palestine, qui est animé par l'Union étudiante, proche de la France insoumise, et qui a conduit la radicalité à Sciences Po. Et ça, Nora Bussini le décrypte très bien, l'analyse très bien, et c'est très efficace. Donc j'encourage vraiment tous vos auditrices et auditeurs qui n'ont pas encore fait d'acheter son livre « Les nouveaux antisémites ». Ils verront comment ces mécanismes de radicalisation fonctionnent auprès de la jeunesse, pourquoi c'est pas prêt de s'arrêter, même s'il y a une trêve à Gaza, et même si on peut espérer que la paix est devant et la guerre est derrière nous, la radicalité de la jeunesse est hélas un fait qui fonctionne avec des gros moyens financiers du Qatar, du Hamas, des frères musulmans, et en plus avec tous les soutiens politiques de l'Union étudiante, le syndicat étudiant de la France insoumise. Donc c'est un ouvrage remarquable, d'ailleurs, qui a été distingué à juste titre par le prix Edgar Faure du livre politique de l'année.
Et puis, toujours dans le Figaro, François Hellebron, on apprenait ce lundi que la France est directement responsable de la décision d'abattre un drone israélien de surveillance qui survolait la frontière israélo-libanaise. Les soldats de la paix impliqués dans l'incident appartenaient au contingent français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, un fait inhabituel puisqu'il est rare que des casques bleus ouvrent le feu sur un drone israélien.
Oui, il est même rare que les casques bleus
ouvrent
le feu tout court sur qui que ce soit d'ailleurs, sauf quand ils sont menacés eux-mêmes de mort et qu'effectivement là ils ont le droit le plus absolu et j'espère qu'ils l'appliqueront toujours, nos soldats français courageux au sud Liban, de légitime défense face à une agression violente, notamment du Hezbollah et des dangereux terroristes qui les entourent. Mais là effectivement un drone de surveillance israélien n'est pas un drone d'attaque. Abattre un drone de surveillance qui en plus fait le travail qui devrait être fait par la FINUL, c'est s'assurer que le Hezbollah ne déploie pas des armes, des milices et de l'armement lourd au sud du fleuve Litani comme les accords de cessez-le-feu récents ont voulu. Donc j'espère que c'est une erreur de commandement, j'espère que c'est une erreur de tir, j'espère que c'est une erreur d'instruction. Parce que sinon, c'est très grave que la France, qui doit avoir un rôle que d'observateur, ne puisse pas laisser les Israéliens avec leurs outils de surveillance caractérisés et très efficaces pouvoir contrôler le non-déploiement du Hezbollah au sud Liban, puisqu'on sait que depuis le cessez-le-feu, le Hezbollah n'a cessé, comme toujours, d'essayer de se redéployer militairement au sud Liban, et l'armée libanaise, qui a fait plutôt un bon travail pour une fois, est quand même assez démunie, donc la FINUL devrait plutôt aider l'armée libanaise et Israël à faire respecter ce non-déploiement militaire du Hezbollah au sud Liban.
François Hellebron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.